Merci Anne Fauquemberg et bonsoir à tous. Nous sommes ce soir à Pau, studio de France Bleu Béarn. Sur la route, Julie Gacon avec Yvon Croisier et Sophie Bobert. Tout poissait aux mains à mesure que la journée avançait, et Rieux sentait son appréhension croître à chaque visite. Le soir de ce même jour, dans le faubourg, un voisin du vieux malade se pressait sur les aines et vomissait au milieu du délire. Les ganglions étaient bien plus gros que ceux du concierge. L'un d'eux commençait à suppurer. Et bientôt, il s'ouvrit comme un mauvais fruit. Rentré chez lui, Rieux téléphona au dépôt de produits pharmaceutiques du département. Ses notes professionnelles mentionnent seulement à cette date réponse négative. Et déjà, on l'appelait ailleurs pour des cas semblables. Il fallait ouvrir les abcès, c'était évident. Deux coups de bistouri en croix et les ganglions déversaient une purée mêlée de sang. Les malades saignaient, écartelés. Mais des taches apparaissaient au ventre et aux jambes. Un ganglion cessait de suppurer, puis se regonflait. La plupart du temps, le malade mourait dans une odeur épouvantable. C'est le moment que choisit Castel, un confrère de Rieux, beaucoup plus âgé que lui, pour venir le voir. Naturellement, lui dit-il, vous savez ce que c'est, Rieux. J'attends le résultat des analyses. Eh bien, moi, je le sais. Et je n'ai pas besoin d'analyse. Bah, tu vois, Yvon, si Albert Camus avait été un palmipède, il n'aurait pas appelé son roman La Peste. Il l'aurait titré Le H5N8. Publié en feuilleton dans Sud-Ouest. Gros succès du canard. Tout poissait aux mains et le vétérinaire sentait son appréhension croître à chaque visite. Le soir de ce même jour, dans l'élevage d'à côté, un canard avait présenté des symptômes critiques. Prostration, paralysie des ailes, râle, diarrhée verdâtre. Rentré chez lui, le vétérinaire téléphona au laboratoire du département. Réponse négative. Et déjà, on l'appelait ailleurs pour des cas semblables. Mais le vétérinaire savait, il n'avait pas besoin d'analyse. Bonsoir Marie-Pierre P.
Bonsoir Julie.
Merci d'être avec nous dans les studios de France Bleu Béarn à Pau. Quand un vétérinaire est appelé le 2 décembre 2016 dans un élevage d'Almérac dans le Tarn pour des canards qui présentaient de tels symptômes, il a sans doute eu lui aussi cette certitude angoissante, ce sentiment de déjà-vu.
Je ne sais pas parce que l'année dernière, les canards vivaient malheureusement avec le virus H5N1. Donc la probabilité qu'on trouve du H5N8 directement sur un canard, elle était faible d'après nous. Voilà, donc c'est une surprise, je pense.
Ça a commencé dans le Tarn, oui. Et ensuite ça s'est très vite propagé.
Voilà, ça s'est passé dans le Tarn, dans une zone qui n'était pas identifiée comme une zone à risque, puisque depuis on avait défini les zones à risque qui correspondent au lieu où séjournent les oiseaux migrateurs, notamment. Et Almérac n'est pas du tout dans une zone à risque. Et on est dans un élevage qui a investi dans toutes les mesures de biosécurité qu'on a recommandées l'été dernier, effectivement. Donc on sort, on est convalescent, on fait tout ce qu'il faut pour bien travailler. Et malheureusement, la malédiction tombe sur cet élevage.
Marie-Pierre P, vous représentez les professionnels puisque vous êtes présidente du CIFOG, le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras. Et vous faites partie à l'époque de cette cellule de crise qui va observer la propagation du virus. Donc d'abord dans le Tarn et puis qui va gagner tous les départements du Sud-Ouest un à un.
Totalement. Totalement, on est en cellule de crise et on se dit, on apprend qu'un autre élevage a été distribué et déjà 5 zones supplémentaires clignotent. Bon, on dit, bon, on va très vite agir et tout ça va s'arrêter. Bon, puis quand même, petit à petit, les foyers se multiplient dans le Gers. On sait très bien que le Gers est une grande terre de production de foie gras, mais non, le Gers, on va pas avoir d'autres cas, et les foyers se multiplient comme une malédiction. Voilà, et ça continue. Arrivent les fêtes de fin d'année, il y a beaucoup de volailles festives qu'il faut sauver. Et ceci va pouvoir se réaliser. On va pouvoir sauver les volailles festives, mais la trêve de Noël n'a pas été du tout une trêve pour nous, puisque nous étions toujours en alerte. En alerte en pensant, à côté du Gers, il y a les Landes. Et les Landes est encore plus grand producteur, avec énormément de densité de volailles et de palmipèdes. C'est pas possible. Pas possible d'avoir une malédiction, les Landes ne vont pas être attrapées.
Et si. Et vous parlez de malédiction avec un oiseau de malheur. C'est cet oiseau asiatique, cet oiseau migrateur. On sait que c'est lui qui est porteur du virus.
Alors effectivement, on sait, puisqu'il y a un observatoire international qui suit l'évolution des migrations et qui suit l'évolution des maladies d'influenza aviaire dans le monde. Et ce tableau de bord, nous l'avions depuis septembre-octobre. On savait ce qu'il se passait. Et on regardait cela de loin, puisque c'était en Asie, après c'était en Europe de l'Est, après dans le nord de l'Europe. Bon, bien sûr, on s'est dit que les oiseaux migrateurs, ils viennent du nord vers le sud, chez nous. En fait, ici, les palombes, elles arrivent du nord. Et jamais on pensait que quelque chose pouvait arriver de l'Est, en fait.
L'oiseau migrateur, lui, peut transporter le virus sans mourir dans les 48 heures, comme les canards ou les oies. C'est un virus très virulent que ce H5N8, plus encore que son précédent, H5N1.
Complètement. On a affaire à un virus coriace, d'une fulgurance jamais vue, d'après les experts. Quand on mesure, avec les critères techniques qui mesurent la virulence d'un tel virus, c'est du jamais vu. Donc on a affaire... Pour comparer avec une vague, on s'est préparé pour une petite vaguelette de 1 mètre et c'est une grosse vague de 15 mètres qui nous arrive dessus.
Si aujourd'hui on devait faire une rapide cartographie des foyers, où est-ce qu'ils se situeraient aujourd'hui en rouge?
Ah, les foyers, tout le département du Gers a été dépeuplé, donc il y a presque plus de canards dans ce département. Les Landes, c'est la même chose. Et on est ici dans la région qui bouge beaucoup encore, le Béarn et le Pays Basque, dont on sait que ce n'est pas stabilisé. Et là, la malédiction semble se poursuivre parce que pour les Landes, on pensait que l'océan allait arrêter le virus, mais on ne pensait pas qu'il y avait le bassin du Béarn et du Pays Basque. Et là, il y a les Pyrénées qui vont arrêter quelque chose peut-être.
Voilà, aux dernières nouvelles, 3 700 000 canards ont d'ores et déjà été abattus et tous n'étaient pas porteurs de la grippe aviaire. Chantal Brett, est-ce que vous vous êtes habituée à ça?
Au silence.
Au silence.
Alors cette année, je commence à m'y faire un petit peu mieux, mais c'est vrai que l'année dernière, ça a été le plus compliqué. La première fois où, moi ici sur mon exploitation, il y a toujours eu des oies reproductrices. Et une oie reproductrice, elle vit pendant 5 ans sur notre exploitation. Et quand un troupeau s'envoie à la réforme, l'autre est déjà là. Donc il y a tous les jours, j'ai toujours eu des oies autour de moi dans mon exploitation. Et donc l'année dernière, quand mes oies ont été abattues, le soir quand je suis allée fermer mon bâtiment et qu'il n'y avait plus un bruit, plus rien, on a l'impression qu'il n'y a plus d'oiseaux. Ça a été un des moments les plus durs de la période de l'année dernière. Voilà, mais c'est ce silence dans nos élevages qui est compliqué. Ouais. Alors c'est vrai que si un jour vous pouvez revenir et que j'ai des oies à nouveau, je vous ferai voir. Parce que l'oie, c'est un animal qui s'apprivoise très facilement. Donc moi quand je les reçois toutes petites, un jour, je leur parle. Je leur parle toujours, et alors mes filles, elles se moquent un petit peu de moi, mais c'est comme ça, je leur parle. Du coup, elles sont toujours habituées à ma voix, et elles répondent. Alors là, par exemple, là, on arriverait à mon bâtiment, je les appellerai, et elles arriveraient, et elles répondent. Donc, il y a toujours cette, par rapport au canard, ou quand j'y vais, voilà, vous pouvez faire raconter ce que vous voulez, il n'y a rien. Mais les oies, c'est vrai qu'elles, toujours, elles répondent. Et ça, c'est quelque chose qui, c'est dur à plus l'avoir, quoi, de pas avoir des animaux qui répondent à notre appel.
Comment est-ce que vous avez vu un matin qu'elles étaient malades?
C'est quand, cette année, avec le virus tel qu'il était cette année, donc quand on a vu à quel niveau il était virulent, j'ai essayé de les protéger et de les rentrer. Et quand je suis arrivée donc, pour rentrer mes oies, j'ai trouvé une d'aveugle. Donc j'ai dit, tiens, c'est bizarre. Donc je les ai rentrés quand même le soir quand je suis revenue leur faire la litière. Et j'ai commencé à en avoir deux autres d'aveugles. Et puis le lendemain matin, voilà, c'était quatre. Et donc j'ai vu que c'était pas normal. Elles ont commencé à avoir des troubles nerveux, les symptômes du virus de cette année. Et là, j'ai compris qu'elles étaient malades.
Qu'en est-il advenu de vos 5600 canards qui, eux, sont élevés un peu plus loin ?
Alors, les 5600 canards n'étaient pas sur le même site. Alors, je les avais dedans puisqu'ils étaient plus petits. Donc, ils sont partis dans le dépeuplement, comme on a dit, puisqu'il y avait foyer. Donc, après, dans les 3 km autour du foyer, ils y partaient à l'abattoir. Donc, ils sont partis la semaine d'après à l'abattoir en dépeuplement.
Chantal Brett, qu'est-ce qu'un éleveur doit de canards qui vit avec ses animaux toute l'année ? Qu'est-ce qu'il a dans la tête quand il les conduit à l'abattoir ?
Alors c'est vrai que, bon, quand on le sait, on élève nos animaux pour qu'ils partent un jour. Bon, ça, on y est prêt. Moi, je sais, chaque année, c'est comme ça, chaque lot, il va partir. Mais je sais que c'est mon métier, je le fais, moi, en aimant mes animaux, en sachant que, même effectivement, hein, s'ils vont être mangés après, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel pour moi. Mais là, c'est sorti de mon métier. J'ai attrapé des animaux, même si je sais qu'ils allaient être abattus, comme ils sont abattus peut-être d'autres fois. Mais c'était pas le final de mon métier. C'est quelque chose qui est quand même quelque part un peu traumatisant pour un producteur, parce que on fait pas ça pour ça, quoi.
Chantal Brett, aujourd'hui, et en attendant de pouvoir récupérer un troupeau, qu'est-ce que vous faites de vos journées ?
Alors là, je continue. J'ai pas tout à fait fini de nettoyer, vous voyez. Donc, je fais beaucoup de nettoyage, de désinfection, parce que bon, la pression, elle est là. On nous a vraiment expliqué que ce virus, il est particulier, il est très très virulent, qu'on va pas arriver à s'en débarrasser comme ça. Donc, il faut vraiment qu'on mette tout ce qu'on peut pour nettoyer, désinfecter. Donc là, pour le moment, c'est ce que je fais, c'est mon travail. Et voilà, je vais essayer de rebondir, hein, mais c'est compliqué quand même. Hein.
Vous estimez déjà vos pertes liées à cette crise, cette deuxième crise ?
Oui, mais donc là, le vide, c'est parce que là, on est vide déjà depuis un mois. Enfin, moi, il y en a qui sont vides depuis encore plus tôt que ça, depuis décembre. Donc là, on ne va pas remettre avant, ben, on ne sait pas. Parce qu'il y a encore des canards, et tant qu'il y aura quelques canards qu'ils n'auront pas fini de les tuer, on ne pourra pas remettre en place. Donc je pense qu'on ne redémarrera pas avant. Alors le ministre nous a dit fermé, mi-mai fermé. Bon, on va espérer. Donc moi, si je démarre fin juin, ben, je vais faire une bande dans l'année au lieu de trois. Donc vous voyez, donc mon revenu va être divisé par trois cette année. Et donc après, il y aura les aides. Moi je vais toucher des aides sur la partie foyer, donc où j'ai été abattue, sur la valeur de mes animaux. Mais voilà, après sur le reste, pour le moment, on ne sait pas. On n'a aucune. Il n'y a pas de dossier qui est encore fait, il n'y a pas de mesures qui sont décidées, il n'y a rien de décidé. Donc c'est quelque chose qui nous fait peur. Parce que l'année dernière, quand on nous a dit on va vous vider, vous allez dépeupler, nettoyer, désinfecter, on savait. Dès la mi-mai, on a touché des sous. Donc déjà, on avait quelque chose, quoi. Là, on n'a rien. Il y a des gens qui sont vides depuis le mois de décembre, qui n'ont pas un revenu depuis le mois de décembre, et qui n'auront pas de revenu jusqu'à je ne sais pas quand. On ne sait pas. C'est énorme. Hein. Moi, je ne sais pas s'ils se rendent compte, quelqu'un qui peut rester sans revenu autant de mois, quoi. Parce qu'on a beau dire, moi j'ai deux filles adolescentes, moi j'ai du lycée à payer, l'une elle vient d'avoir le permis, j'ai une voiture, elle va en faculté, il faut qu'on paye, quoi. On a des charges qu'il faut qu'on paye quand même, quoi. Même si nos exploitations, on a moins de frais, puisqu'effectivement on n'a pas d'animaux, mais notre vie de tous les jours, on n'a pas d'autres revenus. On est tous les deux agriculteurs avec mon mari, donc on n'a pas d'autres revenus à côté. Là, toute la famille, on est agriculteur, donc pour le moment, on est trois familles sans revenus. Voilà.
Vous gardez le sourire.
Oui, il faut. Bon, on est... Moi, je me dis toujours que, souvent je le dis à mes filles, quand tu regardes, je dis, il y a toujours pire, il y a plus malheureux que nous. C'est vrai que l'avantage à la campagne, on a quand même, faut pas trop le dire, on a des conserves, on a du stock. On va pas toujours au supermarché acheter. Donc on a un petit peu, voilà, on a un peu d'avantage comme ça. Mais c'est quand même compliqué, oui.
de tous les pays européens concernés par la grippe aviaire, Marie-Pierre P, la France est celui qui a pris la décision la plus radicale, celle d'abattre tous les canards porteurs du virus, plus ceux de toutes les exploitations voisines dans un rayon de 3 km. Il n'y avait pas d'autre solution.
Malheureusement, je pense que la France n'est pas la seule à avoir appliqué cette méthode, puisque c'est une méthode qui est prévue par les textes européens. Sur un virus aussi contagieux, il faut enlever tout le support du virus qui peut être dans l'entourage. Et donc la mesure d'abattre les animaux qui sont dans le proche voisinage des 3 km, c'est une mesure européenne.
Et c'est une mesure qui ne concerne pas que les éleveurs et les gaveurs, mais qui a des conséquences sur toute la filière, toute une filière. Ici dans le sud-ouest, la filière canard, palmipède, est parmi celles qui économiquement sont les plus importantes.
Bien sûr, j'irai même plus loin, puisque ça, il a fallu abattre les canards, et ensuite même des volailles. Puisque le virus peut être également peut atteindre effectivement des poulets, des pintades, etc. Donc pour faire ce vide, éviter que le virus trouve du support pour se reproduire, il faut faire ce vide. Et cette épreuve nous avait été évitée l'année dernière, puisque l'année dernière, le moyen de lutte avait été totalement différent. On avait laissé aller les animaux jusqu'à leur fin de leur cycle. Et donc, il n'y avait pas eu cette épreuve de devoir abattre de façon anticipée des animaux pour faire le vide. Là, on est avec une situation totalement différente. Les canards sont malades avec ce virus, ils meurent. Donc, il faut pouvoir faire ce vide immédiatement, sans attendre d'aller jusqu'à la fin du cycle. Et ça, c'est réellement, je comprends les propos de Chantal, ça a été une épreuve, parce que enlever des jeunes oies comme elle a dû vivre, c'est quelque chose de difficile. Et c'est pas la finalité de ce métier. Donc, là, ça a été une épreuve supplémentaire.
Une épreuve pour ceux qui s'occupent de l'élevage, ceux qui s'occupent du couvage, pour les usines d'aliments, pour les bêtes, pour les transporteurs indépendants, pour les équipes d'attrapage aussi qui, ça et là, vont donner des coups de main aux éleveurs. Pour l'année dernière, enfin lors du premier épisode de grippe aviaire, vous aviez évalué les pertes de production pour la filière foie gras à 25%. Et cette année, vous avez déjà fait des évaluations?
On est dans le même niveau que l'année dernière, malheureusement. Cette malédiction qui s'est propagée jusque maintenant dans le Béarn et le Pays Basque, on va atteindre le même nombre d'animaux qui ne seront pas produits cette année, c'est-à-dire 9,7 millions à ce jour. Et le feu n'est pas éteint. Le feu n'est pas éteint parce qu'il y a encore quelques foyers dans le Lot-et-Garonne. Donc on espère bien qu'on va éteindre l'incendie maintenant. Mais à date, l'incident est tout à fait du même ordre de grandeur que l'année dernière, donc c'est majeur. Et c'est majeur d'autant plus que ça concerne 4 départements. L'année dernière, c'était 18 départements. Donc l'économie, au moins du Gers, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, va être sévèrement touchée.
Au-delà du petit stock personnel que chaque éleveur peut s'être constitué, globalement, la filière a aussi des stocks. Le modèle de la filière est ainsi fait qu'il y a 3 grosses coopératives, Maïs Adour, Lurberry et Euralis, qui se partagent le marché. Ça a créé du stock. Chacune a de quoi pour l'instant tenir et assurer l'export?
Ah non. Je pense que l'année dernière, on a quand même eu entre 4 000 et 5 000 tonnes de foie gras produits en moins, puisque le dépeuplement sur le Grand Sud-Ouest avait enlevé 9 millions de canards. Et effectivement, s'il y avait quelques stocks qui étaient corrects, sans être anormaux dans la filière, ils ont été sévèrement entamés pour Noël. Voilà. Donc l'année, elle redémarre avec vraiment un niveau très très minimal de stock.
Est-ce que certains éleveurs ont déjà vu la couleur des aides, des indemnités promises par le gouvernement pour compenser
Oui,
les
il y a
pertes,
un petit peu. Le ministre, dès le 19 janvier, il faut le saluer, a dit qu'il aiderait la filière. À l'époque, l'incident n'était pas aussi majeur qu'aujourd'hui. Mais d'ores et déjà, les exploitations comme Chantal, qui ont été foyers, ont pu toucher 75% de la valeur des animaux qui ont été abattus. Donc bien sûr, il reste 25% à venir. Là où les choses ne sont pas en place, ce sont pour les exploitations qui sont à l'arrêt, puisque une exploitation qui se trouve dans le fameux périmètre des 3 km ne peut plus fonctionner. Elle n'a pas été foyer, mais elle ne peut plus continuer à fonctionner, donc elle ne peut plus mettre en place de nouveaux animaux et elle est à l'arrêt. C'est pour ça que depuis décembre, on a des exploitations qui gavaient, donc qui ont des cycles de 15 jours, qui sont à l'arrêt et donc sans revenus. C'est ça qui est difficile et pour lesquels il faut qu'on fasse attention.
Alors avant que ne s'abatte le virus, la filière se portait bien, voire très bien. C'est vrai qu'il y a une période pas si lointaine où tout le monde voulait faire du canard dans l'agriculture. On le dit comme ça, faire du canard, comme on disait faire du lait.
Oui. Tout à fait, parce qu'effectivement, c'est une jolie production. C'est le patrimoine gastronomique français. En plus, nous étions en plein essor au niveau des exportations, avec des progressions de l'ordre de 10% par an. Donc, c'était effectivement un fleuron qui se développait très bien et qui a permis à beaucoup d'exploitations agricoles qui étaient secouées par d'autres crises, notamment mais la crise du lait, la crise de la viande bovine ou même des bovins, permettait d'assurer un revenu et un revenu pour des régions également.
Tu rayon de soleil qui pointe là, la chaleur qui remonte un peu.
Alors on peut s'approcher jusqu'où, Bernard Duval?
Vous voulez, en définitive, du moment qu'il n'y ait pas de contact entre vous et les animaux, je vous demande simplement de ne pas rentrer sur ce qu'on appelle nos unités de production. Voilà. Que les personnes habilitées, bien évidemment, à commencer par le producteur, peuvent rentrer dedans à condition qu'ils passent par un sas sanitaire où on va changer de combinaison, on va rentrer avec un statut inhérent à cette propre unité de production, c'est-à-dire que j'ai un statut sanitaire à l'extérieur. Du moment que je dois rentrer sur mon unité de production, donc sur mon élevage, à ce moment-là, il faut que je prenne une combinaison et des bottes, me laver les mains. Voilà, j'essaie de mettre le maximum de barrières sanitaires entre l'extérieur, qui peut potentiellement représenter un risque, et l'intérieur de mes parcours où évoluent mes animaux, voilà, pour essayer de les préserver du mieux que l'on peut.
Alors là, vous avez un immense parcours avec combien de canards, de ces canards blancs typiques, en fait, ici, ouais. Ces canards hybrides, des mulards.
Voilà, c'est ça. Donc là, il y en a 6600 qui sont divisés en trois groupes. Le cahier des charges IGP, donc indication géographique, nous impose d'avoir au minimum 5 mètres carrés par animal. Et là, en l'occurrence, ils en ont beaucoup plus parce que la découpe de cette parcelle fait que là, on est à plus de 4,5 hectares. Donc, c'est des animaux qui disposent chacun de plus de 7 mètres carrés. Donc, on a bien ce parcours où évoluent 6600 canards âge adulte qui ont déjà 100 jours, qui auraient dû déjà quitter cet élevage en temps normal, il y a déjà une quinzaine de jours.
Et ils ne l'ont pas quitté.
Et on ne sait pas ce qu'on va en faire. C'est là le gros problème. Voilà.
Parce que Bernard Duval, il faut donc expliquer qu'ici, avec vos terrains à perte de vue, on est à Bourriotte-Bergons, dans la Haute-Lande, en bordure du Gers, et qu'on est en zone dite indemne. C'est-à-dire que vous n'avez pas été directement touché par la grippe aviaire, mais finalement, vous en payez quand même les conséquences.
Oui, tout à fait. Alors, la particularité de notre secteur ici, c'est que effectivement, nous sommes en zone indemne. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sur des axes routiers, nous ne sommes pas proches d'élevages qui ont été impactés, nous ne sommes pas proches de zones humides où évoluent des avifaunes potentiellement contaminées. Pour autant, on est un petit peu effacé des radars de notre administration, à savoir que comme on est hors zone impacté directement, on peut continuer à produire. La problématique, c'est qu'en tant qu'éleveur de canards prêts à gaver, la finalité de ces animaux quand ils sont à l'âge adulte, c'est bien de quitter notre exploitation pour partir en gavage. Sauf que là, officiellement, on ne trouve pas de place en gavage, vu que les flux, la logistique pour pouvoir amener ces animaux sur des salles de gavage saines, c'est hyper compliqué à gérer. Il faut arriver à trouver les volumes qui peuvent accepter des lots de cette importance. Et pour autant, on se retrouve contraint et forcé de conserver ces animaux sans avoir de précision quant à l'âge auquel ils vont pouvoir, et s'ils vont pouvoir déjà quitter notre exploitation. Donc aujourd'hui, on se retrouve un petit peu, passez-moi l'expression, les fesses entre deux chaises, zone indemne. Et impossibilité de pouvoir rentrer des animaux ou de les faire quitter, de les faire sortir de notre exploitation. C'est le côté un peu paradoxal et on fait partie un petit peu des dommages collatéraux, j'allais dire, de l'influenza aviaire.
Vous estimez à combien les pertes que vous êtes en train de subir ?
Il faudrait surtout le voir à la fin de l'exercice ou à la fin d'une période donnée. Puis sachant que là, puisque les animaux sont encore en place, notre rôle premier déjà de l'éleveur, c'est bien évidemment de s'occuper de ces animaux. Donc tous les jours, on continue à les bichonner, comme vous pouvez les voir, ils se portent à merveille, ils sont magnifiques, ils sont tout blancs, ils sont immaculés, j'allais dire. Mais des lots comme ça, c'est 400 euros d'aliments par jour, quoi.
Vous êtes combien à travailler sur l'exploitation ?
Alors nous étions deux, Je parle déjà au passé parce que c'est là aussi les dommages collatéraux. Catherine, mon épouse, a repris depuis plus d'un mois maintenant un travail extérieur. Voilà, elle a trouvé du travail, elle travaille dans une usine, une usine du secteur où elle fait les 2-8 à la chaîne. Voilà. Et nous avions repensé un petit peu notre mode de production avec l'idée que Cathy puisse intégrer à plein temps l'exploitation. Donc nous avions investi, nous avions revu notre mode de production pour augmenter en capacité, pour pouvoir avoir des revenus sur deux têtes, deux associés, Catherine et Bernard, au sein de cette exploitation. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un gros retour en arrière. Parce qu'on revient à l'époque de la vente en pète de 2009 où il n'y a pas assez de volume sur l'exploitation pour pouvoir se permettre d'avoir deux revenus. Donc il y en a un des deux, on s'est posé la question, lequel des deux part, c'est toi, c'est moi? Moi, si j'ai des problèmes mécaniques, je préférais que ça soit toi. Donc c'est Cathy qui a quitté l'exploitation pour trouver du travail à l'extérieur.
Est-ce que vous sentez, comme lors des grosses tempêtes qu'il y a eu ici, donc vous citiez 2009, la tempête Klaus, 1999 aussi, est-ce que vous sentez cette solidarité qui s'était mise en place à l'époque entre éleveurs et puis tout simplement entre habitants de la Haute-Land?
Ouais, ça c'est le côté sombre du tableau, j'allais dire, qui assombrit encore déjà un tableau qui n'est pas forcément des plus clairs. C'est qu'à contrario justement de la tempête, notamment de 2009, qui nous avait ravagé l'ensemble de nos exploitations, notamment sur tout ce qui était volailles ici dans ce coin des Landes, la solidarité avait marché à fond entre producteurs mais simplement entre habitants de la commune et même au-delà. Il y avait eu je me souviens de gens qui étaient descendus des Vosges pour avec les tronçonneuses qui avaient loué un camion, des gens qui avaient déjà un certain âge, qui étaient tous à la retraite. L'âge moyen il devait être de 68 ans à l'époque. Ils avaient loué un petit fourgon et dans la journée, ils avaient fait la descente depuis les Vosges pour attaquer ici à grands coups de tronçonneuse pour nous aider à déblayer les pistes et pouvoir accéder à nos élevages qui étaient complètement ravagés. Le contre-pied sur cet événement d'influenza aviaire, c'est qu'à contrario, là maintenant, on s'isole complètement les uns des autres avec toujours la crainte de non seulement de se protéger, mais de se dire si après tout, malheureusement, je suis plombé, est-ce que j'ai pas risque de contaminer des voisins. Donc on tombe dans un schéma de simili-parano où on doute tous les uns des autres, où on s'isole les uns des autres. On est complètement coupé de communication, mais réelle, ce qui est hyper important dans le milieu agricole pour se réconforter, pour se remonter le moral. Ça, c'est quelque chose qui a disparu aujourd'hui du fait de cette influenza et c'est quelque chose qui est très très dur à supporter psychologiquement parlant.
Vous, aujourd'hui, vous avez appris qu'un ami à vous, le vétérinaire Xavier Bance, faisait un prélèvement aujourd'hui chez un voisin, en fait, à quelques kilomètres de là. Vous y pensez? Vous allez y penser aujourd'hui?
Alors, j'allais dire, on va angoisser, mais pas plus que les autres fois, malheureusement, parce que tous les matins, quand nous arrivons au milieu de nos animaux, au lever du jour, la grosse angoisse, c'est de voir est-ce qu'il n'y a pas une mortalité inexpliquée, anormale, quelque chose d'incohérent sur l'exploitation, sur l'élevage et sur les animaux, ce qui serait les prémices peut-être d'avoir été rattrapé par ce virus au sein de notre exploitation. Et effectivement, le fait que Xavier Bance, en l'occurrence notre vétérinaire conseil, aille faire des analyses des chiens voisins, ça va remettre encore un petit peu plus de pression, parce que si malheureusement notre voisin, on parle de voisin ici, mais il est à 3 km, si effectivement lui se retrouve avec une positivité sur son élevage, de par ce fait, moi, dans l'immédiat, mon élevage est bloqué par un euthanasie directement, quoi. Donc c'est l'angoisse supplémentaire de l'angoisse qui est déjà présente. Et c'est quelque chose qui est vraiment au quotidien, qui est difficile à vivre, quoi. On vit en permanence dans l'angoisse à se dire combien de temps on va tenir, parce que les animaux qui sortent pas, c'est aussi un risque potentiel qui reste aussi sur notre exploitation. On ne fait pas le vide, on n'a pas attaqué de vide sanitaire sur cette exploitation. Et j'ose pas dire que je suis plus mal loti que mes collègues qui malheureusement, eux, ont été touchés directement par l'influenza aviaire, mais on peut supposer que ceux qui l'ont été, ont tiré un trait, voilà. Les animaux sont sortis, malheureusement, on les a euthanasiés ou ils ont été malades. Tout a été vidé et on se projette sur demain. C'est-à-dire qu'on va retourner parcours, on va les chôler, on lave, on désinfecte, on entreprend une démarche de projection dans l'avenir. Nous, on n'en est pas là du tout. Ici, on a encore les animaux qui sont en place, qui ne bougent pas, qui ne sortent pas, ça ne rentre pas, ça ne sort pas. Et on ne sait pas combien de temps on va réussir à conserver ce statut indemne. Et qu'est-ce qui va en être cet après-midi? Demain matin, à la première heure, on sera ici pour s'assurer qu'on n'a pas été rattrapé par ce virus. Et le temps passe, les jours passent, s'égrènent lentement, les uns après les autres. Et l'angoisse est toujours là, quoi, permanente. Thank you.
sur la route des éleveurs de canards du sud-ouest face à la grippe aviaire. Nous sommes dans les studios de France Bleu Béarn à Pau avec Marie-Pierre P, présidente du comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras, le CIFOG, éleveuse vous-même d'ailleurs dans les Landes, une exploitation proche de celle de Bernard Duval. Les jours passent et l'angoisse est toujours là, sur votre élevage aussi, j'imagine.
Oui, bien sûr, effectivement, c'est un pan qu'on ne décrit pas. Et merci de pouvoir le faire dans cette émission.
Bon, Marie-Pierre P, qu'est-ce qui est le plus terrible pour un éleveur, de devoir abattre ses propres canards ou de se savoir responsable de l'abattage de tous les autres élevages dans un rayon de 3 km? C'est ça aussi la réalité de la grippe aviaire.
Oui, c'est ça. Et puis on est face à un ennemi qui est pernicieux. L'année dernière, on savait qu'il fallait enlever, nettoyer, et qu'il n'y avait pas vraiment de risque pour les autres animaux. Voilà. Donc le combat, il était loyal. Là, on est avec un virus qui se cache, qui surgit, qui est fulgurant, et effectivement qui fait peser une responsabilité sur les exploitations voisines. Donc je comprends tout ce qu'a dit Bernard, et ça doit être très dur effectivement à le vivre comme ça.
Un virus qui tue les bêtes, mais les bêtes. À l'instar de la peste d'Albert Camus, qui divise les hommes aussi, et notamment à l'occasion de cette deuxième crise de grippe aviaire, on a l'impression qu'un clivage s'est créé entre les petits et les gros éleveurs. Je parlais tout à l'heure de la filière qui est organisée selon trois grosses coopératives, mais il y a aussi tous les petits éleveurs, les éleveurs familiaux, éleveurs-gaveurs en fait, qui font un peu tout chez eux, et ceux-ci ont accusé les gros éleveurs d'être un peu à l'origine de la transmission du virus, la propagation, parce que, eh bien voilà, les canards, c'est vrai, font beaucoup de kilomètres dans une vie. Il faut d'abord les emmener à l'élevage, ensuite au gavage, ensuite à l'abattoir. Et ça a créé des dissensions, des conflits.
Oui, il y a eu des tensions qui ont vu le jour, justement, puisque quand on repart à Almérac, le transport des animaux, effectivement, puisque quand dans la filière qui produit pour les grandes marques nationales, où il faut un peu plus de volume que pour une simple exploitation, il y a eu une spécialisation des tâches. L'éleveur n'a fait qu'élever et il vend ses animaux à des gaveurs qui, eux, ne font que gaver. Et effectivement, entre les deux, il y a un transport. Et ce transport, on le pensait sécurisé. On le pensait sécurisé d'un point de vue sanitaire. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas parce qu'on a affaire à un virus qui est coriace, qui est beaucoup plus fulgurant que l'année dernière. Et tous les process qu'on avait mis en place l'année dernière ont été balayés. Donc cette situation a créé des tensions parce que effectivement ceux qui ne sont pas concernés par le transport en veulent aux autres. Mais tout le monde, il n'y a pas que le transport qui est le facteur de propagation, il y a également le facteur humain. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas, Bernard Duval a bien expliqué au début de son interview comment il se protège, qu'il change de tenue quand il va dans son élevage, c'est la biosécurité. Et là, on voit bien dans l'analyse que l'on fait aujourd'hui que les facteurs de propagation, oui, il y a eu du transport, mais il y a beaucoup, beaucoup de facteurs humains. Donc il y a encore du travail à faire et cela, il faut que tous soient professionnels, que l'on soit petit, ou que l'on soit un grand élevage, il faut que tout soit professionnel dans les méthodes de travail pour se protéger pour l'avenir.
Sans compter les cas, alors très minimes bien sûr, mais en l'occurrence une enquête a été ouverte parce que des soupçons pèsent sur certains qui n'auraient pas signalé des canards malades et qui les auraient conduits au gavage comme si de rien n'était.
Effectivement, écoutez, une enquête est ouverte, je pense qu'il faut laisser faire la justice, mais je rappelle que la situation, l'année dernière, les canards n'étaient pas malades avec l'influenza aviaire. On se trouve dans le Tarn, dans une zone qui n'est pas du tout identifiée à risque, qui est assez faible en densité avicole. Donc pourquoi l'influenza aviaire 2017 tomberait là? Voilà, il faut aussi placer les justes. Les symptômes peuvent être nombreux. Les premiers symptômes qui ont été observés par les vétérinaires peuvent être la cause d'autres maladies. Et il a bien fallu ce temps des 4 jours pour vérifier avec les méthodes qui sont officielles. Il faut faire plusieurs analyses pour s'assurer que c'est de la grippe aviaire. Et malheureusement, pendant ce laps de temps, l'élevage oisin a été déplacé. Et c'est le départ d'une malédiction.
Xavier Bance, en tant que vétérinaire, quand vous arrivez sur une exploitation, quand vous arrivez chez des éleveurs de canards ou d'oies, en général, c'est qu'on vous a appelé. Vous venez pas par hasard.
C'est ça. Ouais, de manière générale, les éleveurs sont tout à fait au courant de cette maladie, malheureusement, depuis maintenant 3 mois. Ils connaissent tous, grosso modo, les symptômes. Et dans la majorité des cas, les éleveurs nous ont appelés, même avant qu'on ait eu la moindre mortalité. Et donc, on arrive sur une exploitation, et après, on essaie de voir si effectivement les symptômes sont cohérents avec ce qu'on connaît de la maladie. S'il y a des morts, on fait ce qu'on appelle des autopsies. Hein, donc, on va vérifier que les lésions qu'on peut voir sont cohérentes avec la maladie. Et puis, on fait un ensemble de prélèvements. Et puis après, on ramène ça au laboratoire qui va nous faire l'analyse et qui va nous dire effectivement, il y a du virus. Et ce virus, c'est du virus H5. Et éventuellement, si c'est le cas, ça part après en Bretagne. Il y a un laboratoire à Ploufragan qui fait les analyses finales et qui va nous dire c'est du hautement pathogène. Et à ce moment-là, on va déclarer un foyer. Puis aussi, il y a tout un aspect formation, information, que hier matin on a fait avec les éleveurs et que je ferai demain matin avec des éleveurs, dans lequel on communique avec eux sur c'est quoi le virus, comment on va travailler demain, c'est quoi les problématiques, etc.
Alors là, aujourd'hui, Xavier Bance, vous êtes en zone indemne, alors que vous, dans votre travail, êtes toujours en zone, je crois qu'on appelle ça zone sale, ouais. En zone où le virus est partout. Ça veut dire que vous devez vraiment prendre des précautions très importantes.
Voilà. Bon. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, dans les élevages qui ont été contaminés, il y a beaucoup de virus, quoi. Et donc, la moindre parcelle de poussière, de plumes, de fientes que je pourrais transporter d'un élevage contaminé à un élevage qui ne l'est pas, pourrait éventuellement très facilement contaminer cet élevage. Alors nous, on s'est organisé au niveau du cabinet véto pour que seul un certain nombre de vétérinaires aillent dans cette zone, entre guillemets, sale, hein, contaminée plutôt, ou potentiellement contaminée, et puis on a délégué un de nos associés pour travailler dans cette zone indemne, en faisant en sorte que nous qui avons le plus de chance, hein, clairement c'est les vétérinaires qui sont en première ligne, on ne diffuse pas du virus, c'est pas notre boulot de diffuser du virus, et donc on essaye de prendre les précautions qu'on peut par rapport à ça. Donc on essaye de s'abstenir d'aller au maximum dans ces zones-là, et si on est amené à y aller, on n'y va qu'en étant sûr que dans les 2-3 jours précédents, on n'a pas vu de foyer, ce qui est le cas aujourd'hui, je vous rassure, et de manière à ne pas faire prendre de risques aux éleveurs et à leurs voisins, hein, parce que souvent quand vous avez un éleveur qui est impacté, il y a aussi toute une zone qui devient impactée, souvent 10 km autour de l'éleveur, on a des mesures de restriction qui se mettent en place, qui sont problématiques et économiquement lourdes pour les éleveurs.
Quel est votre avis de vétérinaire, beaucoup plus en général, sur le système de production, sur les changements qui se sont opérés aussi peut-être ces dernières années, l'évolution du métier d'éleveur? Est-ce que des erreurs ont été commises? Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, vétérinaire, de cette crise-là?
Moi, vous savez, ça fait une bonne vingtaine d'années que je suis vétérinaire sur cette zone-là. Pendant 18 ou 20 ans, on n'a pas vu un seul virus influenza. Et puis c'est vrai que là, 2 années de suite, on le voit. Alors je pense que la filière n'est pas innocente là-dessus. Elle a du travail à faire là-dessus pour respecter un peu des standards de production. Une grande partie de l'effort a été fait l'année dernière. Manifestement, ça n'a pas suffi. Donc je pense qu'il y a encore certains changements qui sont réalisés. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de tout le monde que si on veut que ça dure, il faut aussi un petit peu se renouveler, changer un peu nos pratiques, aller vers des choses plus adaptées, savoir qu'il y a il y aura aussi des périodes de l'année à risque. Grosso modo, on sait que, de manière générale, c'est toujours au mois de décembre, janvier qu'on est embêté. Est-ce qu'il y aura sûrement du bon sens à trouver des mesures adaptées à ces périodes-là, quitte à produire un petit peu moins sur ces périodes-là, mais de manière à pouvoir produire toute l'année régulièrement, et puis de satisfaire le client final qui est le consommateur, parce que tout le monde aime bien manger du foie gras, du magret et du confit. Donc voilà, je pense que c'est ça qui est important, quoi. Je pense qu'il y a une bonne volonté pour pouvoir le faire de manière générale, mais ce qui est compliqué, c'est pour se mettre à un niveau supplémentaire, voire réduire un peu sa production, et que dans le même temps, vous n'avez pas d'argent. Vous imaginez bien que pour les éleveurs, c'est pas simple. Ça veut dire que dans le même temps, on dit investissez, et puis dans le même temps, on vous dit vous n'avez pas de pognon. Enfin, c'est pas simple de changer tout sans argent. Quoi.
Vous, Xavier Bance, en tant que vétérinaire, vous soignez les bêtes, mais vous êtes beaucoup avec leurs éleveurs. C'est le côté humain qui vous intéresse.
Eh bien oui, parce que ces périodes-là sont toujours des moments difficiles. Quand vous avez de la mortalité sur un élevage, hein, l'autre jour c'était sur un couvoir, quand vous arrivez et que le couvoir vous a appelé en disant j'ai de la mortalité, Et donc, vous arrivez pour voir si effectivement les lésions qu'on voit sur les animaux, les symptômes qu'on voit sur les animaux sont compatibles avec la maladie, que vous allez faire les prélèvements et que quand vous rentrez au bureau et que vous avez une vingtaine de personnes qui vous attendent, en ayant bien en tête que ce que vous allez dire va conditionner leur travail dans les 6 mois qui viennent, c'est forcément un moment compliqué, parce que en fait, vous savez bien que vous allez mettre des gens dans la mouise, hein, quelque part, et donc alors je pense qu'on fait, c'est normal de faire bien notre boulot, et d'autre côté, on ne peut pas ne pas en tenir compte. Donc quand tous ces gens-là se retrouvent dans cette difficulté-là, on est le porteur de mauvaises nouvelles, et c'est vrai que c'est quand même des moments toujours un petit peu compliqués. Alors on rediscute après, on essaie d'échanger, mais forcément ça fait partie de ça. Et puis à tous les niveaux, hein, tous les agriculteurs sont à peu près pareils. Hein. Chacun se retrouve dans un moment de doute. Est-ce que j'ai encore un avenir dans ce milieu-là? Est-ce que mes enfants pourront s'installer? Est-ce qu'ils auront... voilà, c'est toujours des moments compliqués.
Ça vous est arrivé récemment avec des éleveurs en particulier?
Ouais. Oui, c'est vrai que vous vous retrouvez avec des gens qui me disent « moi j'ai plus d'avenir là-dessus, donc je vais tout arrêter ». Et souvent là, il faut du temps, hein, parce que finalement, il y a un aspect un peu deuil, c'est peut-être un peu exagéré le mot, hein, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que tant qu'il y a les animaux en place, c'est difficile, quoi. Une fois que les animaux vont être partis, alors qu'on les euthanasie sur place ou qu'ils partent dans des abattoirs, peu importe, à ce moment-là, on va rentrer dans un moment où on va commencer à nettoyer, on va commencer à désinfecter, etc. Et donc, quelque part, on va reparler un petit peu d'avenir, et là, on peut commencer à reconstruire.
C'est vrai qu'il y a d'abord la phase où il faut ramasser les cadavres, c'est et ça. Parfois, c'est des tonnes.
C'est ça. Quand vous avez 50% de mortalité sur un lot, ben, c'est pénible. Et puis, on n'est pas éleveur pour ramasser des cadavres. Hein, je veux dire, on est éleveur pour voir si tout va bien, s'ils ont bien mangé, s'ils ont bien bu, s'ils sont sympas. Et voilà, c'est sûrement pas pour faire ça, quoi.
Marie-Pierre P., outre l'urgence à gérer, l'éradication du virus, la détresse des éleveurs, c'est toute une filière qui est en train de se remettre en question aujourd'hui. Tous les jours, des réunions sont organisées de prévention, mais aussi de réflexion sur des comportements à adopter, comme le disait Xavier Banse. Peut-être des règles sanitaires à revoir. Qu'est-ce qui se dit aujourd'hui dans la profession?
Effectivement, donc on a parlé tout à l'heure des facteurs de propagation de ce fameux virus. On a bien vu qu'il y avait les transports, on a vu qu'il y avait les intervenants dans les élevages qui vont d'élevage en élevage pour aider les éleveurs dans leur mission. À des moments, il faut attraper les animaux, donc on a besoin d'aide extérieure. Mais également, il y a le mode de production. Il faut respecter des règles de biosécurité qui ont été largement expliquées et développées l'année dernière pendant l'été. Il faut continuer à les appliquer. Puis là, on se rend compte... Ça a été la réflexion qui a été menée depuis le mois de décembre, où on réunit les responsables professionnels pour voir comment on va pouvoir repartir et recommencer à travailler en sécurisant ce risque sanitaire sans se mettre en danger.
Repartir à peu près aux environs de la fin mars.
Voilà, on est sur mi-mai.
Donc, à mi-mai, pardon.
La mi-mai, oui. Le ministre a annoncé cette date butoir. Mi-mai fermé, donc c'est encore loin. Malgré tout, on a réfléchi, on a adopté des règles pour au moins les élevages qui sont spécialisés dans cette fonction de produire des animaux prêts à gaver.
Donc quel genre de règles?
Voilà. Donc ouais. Là, on a vu tout à l'heure, Xavier Banse l'a expliqué, il faut réfléchir à pouvoir protéger les animaux pendant certaines périodes à risque. On voit depuis 2 ans, la période à risque c'est novembre-décembre dans nos régions, à cause du risque des migrations. Et là, on sait que ceci, quand on passe à un risque élevé, il y a un système d'alerte qui existe au niveau de l'État qui peut placer la France en risque élevé. Et nous, on dit, quand on passe à un risque élevé, il faut pouvoir protéger les animaux d'un contact de la vie-faune. Donc ce que l'on va demander, il y a pour l'instant une grande majorité qui se dégage pour cela, c'est que l'on puisse avoir un toit pour protéger les animaux. Alors le toit, ça peut être un bâtiment en dur, bien sûr. Ça peut être aux solutions plus légères, mais pour l'instant, toute la réflexion est en cours pour savoir comment on va protéger. Mais la décision de pouvoir protéger les animaux pendant cette période à risque, elle est prise. C'est ça qui est extrêmement important. Alors qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va impliquer de diminuer le nombre d'animaux que l'on va mettre en place à ce moment-là. Donc on va diminuer les densités d'animaux. Parce qu'on ne sait pas élever des animaux, des canards qui sont habitués et qui sont faits pour vivre en plein air. C'est vraiment c'est notre vraiment, ADN. Ouais, l'élevage en plein air, c'est notre ADN. Et ça n'est pas du tout remis en cause. Ce qui est prévu, c'est de pouvoir protéger les animaux pendant la période à risque. Et pour cela, il faut diminuer les densités pour pouvoir, si cela était nécessaire, pouvoir les garder à l'intérieur ou protéger. Et là, il ne faut pas dépasser des densités de 5 animaux.
Mais alors, acheter un toit, acheter des bâtiments, enfin, ça implique aussi sans doute oui. d'investir. Et oui. certains éleveurs n'ont peut-être pas les moyens. Est-ce que les banques se montrent coopérantes ?
Je pense qu'il y a quand même tout un ensemble d'opérateurs qui sont aux côtés de la filière. Tout le monde est mobilisé pour effectivement pouvoir permettre aux producteurs de repartir. Les coopératives dont on parlait tout à l'heure sont aussi des formidables piliers pour les exploitations agricoles, il ne faut pas oublier. Hein. C'était souvent des garanties pour les banques, pour rassurer la banque par rapport aux investissements qui seront menés.
Entre parenthèses, on a vu ce qui s'était passé aussi dans la filière du lait, les coopératives, parfois aussi en disant à un éleveur, je vais te prêter de l'argent pour que tu puisses repartir, totalement. Peuvent un peu contraindre l'éleveur dans ses méthodes,
que c'est
et
déjà
ça peut
le cas.
Dangereux.
Voilà, je pense que c'est déjà le cas pour accompagner l'éleveur dans un schéma et dans un modèle économique qui soit sécurisé.
Moi, je veux dire que ça peut être aussi, en tout cas dans la filière laitière, on a vu des abus. Comment est-ce qu'on peut contrôler ça pour qu'éleveurs et coopératives restent dans un rapport...
Alors je pense
rapport,
que toute la réflexion que l'on mène au niveau de l'interprofession, qui réunit tous les opérateurs, va avoir le mérite au moins de poser des règles communes. Et je pense que ces règles seront rendues officielles et obligatoires par les pouvoirs publics. Donc on va avoir un certain nombre d'étapes de validation qui doit permettre à rassurer tout le monde. Parce que quand les pouvoirs publics rendent des règles obligatoires, des règles professionnelles obligatoires, c'est qu'ils ont pris un certain nombre de garanties, d'avis, d'experts pour pouvoir dire oui, c'est la bonne voie. Donc moi je suis rassurée par rapport à cela.
Comment est-ce qu'on s'assure que les plus petites exploitations, les exploitations familiales sur le modèle éleveur-gaveur, qui n'auront peut-être pas les moyens de se mettre aux normes, pourront subsister à terme ?
Je pense que pour ces exploitations, dans la mesure où elles prennent peu de risques, puisqu'elles élèvent tous les petits canards et tous les canards qu'elles gaveront, donc il y a peu d'exposition au risque du transport. C'est ce qu'on appelle, dans notre jargon, des élevages en autarcie. Donc a priori... il faut bien faire le travail de la biosécurité, qui est extrêmement important, et notamment le facteur humain. Ça, c'est une belle maîtrise à avoir. Et aller jusqu'à la commercialisation des produits, c'est ce que font plusieurs exploitations, et avec succès. Et d'ailleurs, on est toujours content d'aller acheter notre produit aussi à la ferme. Donc, c'est la vitrine de la filière. Hein. Donc, moi, je ne suis pas très inquiète. Je pense que tout le monde va être professionnel. On va augmenter le niveau sanitaire de la filière globalement. On a pris soin de prendre les avis de tous et je suis confiante en l'avenir.
Marie-Pierre P, on entend ça et là des laboratoires dire qu'ils travaillent à l'élaboration d'un vaccin. Vous y croyez ?
Écoutez, tous les experts disent que c'est pas la solution pour résoudre une crise. Aujourd'hui, le vaccin contre H5N8 n'existe pas. Il y a effectivement du travail scientifique qui doit être mené pour que dans l'avenir, si nous étions exposés dans une nouvelle crise d'influenza aviaire, on puisse avoir cet outil. Mais aujourd'hui, il n'existe pas.
En attendant, le meilleur vaccin, c'est le soleil, paraît-il.
Oui.
Il crame le virus et on est content de le voir arriver alors ici dans le sud-ouest.
Totalement, la journée est printanière et c'est vraiment, ça nous met du bon cœur.
Merci beaucoup Marie-Pierre P d'avoir été avec nous, présidente du CIFOG. Je rappelle que vous pouvez commenter et podcaster cette émission sur le site de France Culture à la page de Sur la route. Notre petite entreprise poursuit sa route. Yvon Croisier au volant, copilote Sophie Bobert. Merci à l'équipe de France Bleu Béarn pour son accueil. À la technique, c'était Patrick Renard. La semaine prochaine, nous serons dans les jardins ouvriers de Sedan, dans les Ardennes, dans le cadre d'un week-end spécial jardin sur France Culture. Il est bientôt 19h, l'heure de retrouver Marie-Hélène Freissé pour Tout un monde.